Bienvenue chez Andy's Café, où les machines préparent le café et les humains le savourent. Aujourd'hui, nous servons le Morning Paper. Bonne écoute.
Une semaine où les capacités ont trouvé leurs conséquences. Cette édition couvre la semaine du lundi 10 août au dimanche 16 août 2026. En apparence, les actualités partent dans toutes les directions. Claude a participé à un travail mathématique sur la fonction zeta de Riemann. Trois entreprises ont présenté des modèles qui misent sur la vitesse, l'endurance ou le prix. Meta a publié les poids d'un grand modèle multimodal sous licence permissive. Google annonce 1 milliard d'utilisateurs mensuels pour l'application Gemini et prépare des connexions vers des services extérieurs. OpenAI étend son test publicitaire dans ChatGPT à de nouveaux pays. Un système de recherche de Google a mené des consultations cliniques simulées en vidéo. Et un développeur a retardé la publication des poids d'un modèle pour une raison de cybersécurité. Mises bout à bout, ces histoires racontent pourtant une même évolution. Le progrès ne se mesure plus seulement à ce qu'un modèle sait faire en principe. Compte désormais la rapidité de la réponse, la durée pendant laquelle un agent peut poursuivre une tâche, le prix de l'usage, la possibilité d'exécuter le modèle sur son propre matériel et les intérêts commerciaux qui entourent le produit. Un mot de prudence avant de commencer. Une bonne partie des chiffres que vous entendrez viennent des entreprises concernées. Nous le signalerons chaque fois que cela compte. Nous ne transformerons pas trois annonces de modèles en course au classement, car leurs mesures ne sont pas comparables. Une intégration annoncée n'est pas un service déjà disponible, et l'examen d'un travail par des experts n'est pas encore un consensus scientifique. Commençons par le résultat le plus inhabituel de la semaine, celui qui s'inspecte le mieux et qui demande le plus de précision dans les mots. Claude et les zéros de la fonction zeta. Le lundi 10 août, Anthropic a présenté un travail mené avec Claude sur les zéros de la fonction zeta de Riemann. Le manuscrit mathématique est daté du 11 août et l'entreprise a mis à jour sa présentation publique le jeudi 13 août. L'hypothèse de Riemann est l'un des problèmes ouverts les plus célèbres des mathématiques. Elle porte sur la position de certains zéros de la fonction zeta, une position profondément liée à la répartition des nombres premiers. Le travail de cette semaine ne démontre pas cette hypothèse. Il concerne une question plus étroite, mais sérieuse. Les mathématiciens savent qu'une infinité de zéros se trouve sur une droite particulière du plan complexe, appelée la droite critique. Ils étudient aussi combien de ces zéros sont simples, c'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas au même endroit. Le travail présenté relève une borne inférieure inconditionnelle pour la densité des zéros simples sur la droite critique. Elle passe de 41,6% à 67,2%. Cette phrase demande un maniement soigneux. Elle ne signifie pas que 67,2% de l'hypothèse de Riemann serait résolue. Il s'agit d'une borne inférieure au sein d'un résultat précis, portant sur une classe de zéros. Ce qui distingue l'annonce d'une simple capture d'écran de conversation, ce sont les pièces publiées. Anthropic a mis en ligne l'article mathématique ainsi qu'une formalisation dans Lean, un système qui permet d'exprimer des définitions mathématiques et de vérifier des démonstrations selon des règles strictes. L'entreprise affirme que deux mathématiciens de son équipe ont refait la dérivation de manière indépendante et validé le résultat, et que les mathématiciens Brian Conray et Dan Goldstone ont examiné le travail dans un délai très court. Ces éléments renforcent la crédibilité, mais ils n'achèvent pas le processus scientifique. Un examen rapide par des experts nommés n'est pas un aval formel et une validation interne n'est pas la relecture ordinaire de la communauté mathématique. La description juste, aujourd'hui, est celle d'un résultat potentiellement nouveau et important, accompagné d'objets que chacun peut inspecter et non d'un consensus établi. L'intérêt dépasse le théorème lui-même. Une grande partie du débat sur l'intelligence artificielle et les mathématiques repose sur des problèmes choisis dont la réponse est connue. Ici, la contribution proposée porte sur une question de recherche vivante et l'article comme les fichiers Lean donnent aux spécialistes de quoi vérifier. Si l'argument résiste à un examen plus large, ce sera le signe qu'un modèle généraliste peut participer à la production de mathématiques nouvelles et pas seulement retrouver un résultat caché dans un test. La bonne question n'est donc pas de savoir si Claude a résolu l'hypothèse de Riemann. Ce n'est pas le cas. Elle est de savoir si des mathématiciens indépendants confirmeront la nouvelle borne et quelles étapes du travail le système a réellement accélérées. Vitesse, endurance et prix. La nouvelle course des modèles. Trois annonces de modèles sont tombées en 2 jours. Le mercredi 12 août, Xai a présenté Grok 4.6 dans ses canaux dédiés à la programmation et aux interfaces pour développeurs, avec des prix publiés. Le jeudi 13 août, Google a lancé Gemini 3.7 Flash dans ses canaux produits et développeurs, avec un tarif de lancement temporaire. Le même jour, OpenAI a ouvert un aperçu limité de GPT 5.6 Sol Ultra Fast, adossé au matériel de Cerebras. Le chiffre le plus frappant vient d'OpenAI, jusqu'à 750 tokens produits par seconde et jusqu'à 14 fois la vitesse du modèle standard. Ce sont des maximums communiqués par l'entreprise, pas des mesures indépendantes, et l'aperçu n'est ouvert qu'à un cercle restreint d'utilisateurs. Plus largement, les capacités, les prix et les vitesses annoncées cette semaine viennent des trois entreprises elles-mêmes et ne se comparent pas directement entre eux. Le tarif initial de Google est explicitement temporaire et un aperçu réservé n'est pas une offre que n'importe quel développeur peut mettre en production. Il serait donc trompeur de transformer ces pages d'annonces en podium. Il reste une lecture commune, que nous présentons comme une interprétation éditoriale et non comme un classement mesuré. La compétition utile porte de plus en plus sur des conditions pratiques. Un agent peut-il poursuivre un travail long sans se perdre? Répond-il assez vite pour rester fluide? Écoute-t-il assez peu pour être utilisé en continu? Les trois annonces se rejoignent sur ce terrain. XAI met en avant le travail soutenu, la programmation et l'usage par interface. Gemini Flash promet, jusque dans son nom, l'interaction rapide et économique. OpenAI associe un modèle à du matériel d'inférence particulièrement véloce. Pour un agent qui enchaîne les étapes, lit des fichiers, appelle des outils et corrige du code, l'attente et la facture deviennent des limites de capacité à part entière. Gardons enfin les ordres de grandeur à leur place. Un token n'est pas une unité fixe de travail utile, le délai ressenti ne se réduit pas à la vitesse de génération, et une réponse très rapide qui demande une correction fait parfois perdre plus de temps qu'une réponse lente et fiable. Les lancements de la semaine ne disent pas quel fournisseur résout le mieux cette équation. Ils montrent que les entreprises considèrent désormais l'endurance, la latence et le prix comme l'un des enjeux qui comptent le plus. Muse Glimmer, des poids ouverts sur du matériel local. Le lundi 10 août, Meta a publié les artefacts de Muse Glimmer 30B sous licence Apache 2.0. La lettre B suit l'usage anglais et renvoie au milliard. D'après la fiche officielle, le modèle de langue dense compte environ 29,6 milliards de paramètres, auxquels s'ajoute un encodeur de perception d'environ 1,8 milliard de paramètres. Le système accepte du texte et des images et produit du texte. La fiche décrit une longueur de contexte supérieure à 131 000 tokens. Pour l'exécution non compressée, dans le format numérique appelé BFloat 16, Meta vise 64 gigaoctets de mémoire vidéo. Les variantes compressées sur 4 bits visent des machines dotées de 32 ou de 24 gigaoctets. Local ne veut donc pas dire léger. Même 24 gigaoctets de mémoire vidéo restent l'apanage de stations de travail personnelles inhabituellement puissantes, pas d'un ordinateur portable ordinaire. L'idée est plutôt qu'un matériel suffisamment capable, contrôlé par son propriétaire, peut suffire, au lieu d'envoyer chaque requête vers un service hébergé. Le vocabulaire compte aussi. Il s'agit de poids ouvert sous licence Apache 2.0 et pas simplement d'open source. La licence et les artefacts publiés donnent de larges libertés pratiques, mais l'ouverture d'un modèle a plusieurs dimensions. Les poids, les données d'entraînement, le code, les détails d'évaluation et le produit environnant ne se confondent pas. Meta affirme par ailleurs que les variantes compressées préservent la qualité mesurée dans ses propres tests. C'est une affirmation du fabricant qui n'est pas vérifiée indépendamment ici. La publication compte, malgré ses réserves, un modèle multimodal sérieux, exécutable sur du matériel contrôlé par son utilisateur, change la donne pour les travaux sensibles à la confidentialité, les systèmes hors ligne, l'expérimentation et pour les calculs de coûts qui favorisent la possession d'équipements plutôt que le paiement à la requête. La frontière importante n'est donc plus seulement ce qu'un modèle sait faire. C'est aussi qui peut le faire tourner, sur quel matériel, sous quelle licence et avec quelle perte de qualité une fois compressé pour tenir en mémoire. Gemini, 1 milliard d'utilisateurs et un pas vers l'action. Le mardi 11 août, Google a déclaré que l'application Gemini avait dépassé le milliard d'utilisateurs actifs mensuels. L'entreprise évoque aussi plus de 100 millions d'utilisateurs actifs sur iOS et plus de 150 millions d'images créées chaque jour. Ces chiffres sont ceux de l'entreprise et n'ont pas été audités indépendamment. La formule de produit Google à la croissance la plus rapide est, elle aussi, une description maison. Même avec ses réserves, l'ordre de grandeur revendiqué installe l'assistant conversationnel dans le marché de masse. La question n'est plus de savoir si le grand public essaiera un assistant, mais à quelle fréquence il s'en sert, pour quelles tâches, et quelle partie de la vie numérique quotidienne l'assistant commence à orchestrer. C'est là que s'insère la seconde annonce. Le mercredi 12 août, Google a annoncé des connexions vers des services extérieurs, dont OpenTable au Royaume-Uni, Ticketmaster, Zocdoc et Wix. Le déploiement est prévu au fil des semaines suivantes. Ces connexions ont été annoncées, elles n'étaient pas toutes disponibles le jour même. Le mouvement va de la réponse vers l'action. Un assistant connecté peut passer de la suggestion d'un restaurant à la recherche d'une réservation ou de la description d'une démarche à son accomplissement. Chaque connexion supplémentaire réduit des frictions, mais place aussi davantage de décisions et de contextes personnels dans une seule interface. Les questions de produits suivent immédiatement. L'assistant montre-t-il clairement ce qu'il s'apprête à faire? Quand demande-t-il confirmation? Quel service choisit-il quand plusieurs pourraient convenir? Quelles informations transmet-il à l'entreprise extérieure? Et que se passe-t-il quand il comprend mal une consigne dont la conséquence est bien réelle? 1 milliard d'utilisateurs mensuels mesurent une portée déclarée, pas la confiance ni la satisfaction. Les connexions de services sont une direction annoncée, pas la preuve que chaque transaction fonctionnera. Ensemble, pourtant, les deux annonces montrent pourquoi la conception du produit autour du modèle pèse désormais autant qu'un cran de plus dans le modèle lui-même. La publicité s'installe dans ChatGPT. Le mardi 11 août, OpenAI a mis à jour l'annonce de son test publicitaire dans ChatGPT pour y ajouter 5 marchés. Le Royaume-Uni, le Mexique, le Brésil, le Japon et la Corée du Sud. Ce n'est pas une première. Le test initial avait commencé aux États-Unis le 9 février. La nouveauté de la semaine est donc une extension géographique, pas l'arrivée de la publicité dans le service. D'après le dispositif publié, le test concerne les adultes connectés qui utilisent les formules Free et Go. Les offres payantes en sont exclues. L'entreprise indique que la sélection des annonces peut s'appuyer sur le sujet de la conversation en cours, sur les discussions passées et sur les interactions avec les publicités et que les annonceurs reçoivent des rapports agrégés. OpenAI affirme aussi que les publicités n'influencent pas les réponses et que les conversations restent privées vis-à-vis des annonceurs. Ce sont des engagements de l'entreprise sur les règles qu'elle entend maintenir, pas des constats indépendants sur chaque mise en œuvre future. La publicité peut financer l'accès de celles et ceux qui ne paient pas d'abonnement. Elle introduit aussi une incitation qui exige des frontières particulièrement nettes dans une interface conversationnelle. Une page de résultats de recherche sépare visiblement l'annonce de la liste de liens. Une conversation paraît plus personnelle et son contexte en dit bien davantage sur les intentions. Le placement, l'étiquetage, les règles de sélection, le traitement des données et la séparation d'avec la réponse comptent donc ici plus qu'ailleurs. La vraie question de produit n'est pas seulement de savoir si une annonce apparaît. C'est de savoir si l'utilisateur comprend pourquoi elle apparaît, si la suggestion commerciale se distingue clairement de la réponse de l'assistant et si le fait de ne pas y toucher change le service reçu. L'extension rend ces questions concrètes bien au-delà d'un essai américain limité. Elle confirme aussi qu'un assistant de masse devient une plateforme économique et plus seulement un modèle derrière une zone de texte. AMI mène des consultations cliniques simulées en vidéo. Une étude sur AMI, le système de recherche médicale de Google pour des consultations audio et vidéo en temps réel, a d'abord été publiée le lundi 10 août. Google Research l'a présenté le lendemain, mardi 11 août. Le protocole était un examen clinique simulé et randomisé, 100 scénarios, 300 consultations, 15 acteurs formés au rôle de patient, 10 médecins généralistes menant les consultations de comparaison et 20 médecins chargés de l'évaluation. D'après l'article, les médecins évaluateurs ont jugé AMI au niveau des médecins consultants ou au-dessus sur plusieurs critères cliniques. Les acteurs jouant les patients ont préféré le système pour l'évaluation du cas et les explications, mais ont préféré les médecins humains pour la relation et le sentiment de partenariat. Ce partage est instructif. Un système structuré peut être minutieux, constant et explicite. Un clinicien humain répond à la dimension sociale et émotionnelle de la consultation d'une manière que les acteurs ont davantage appréciée. Aucun de ces deux constats ne doit être gonflé en victoire de la machine ou des médecins. Le cadre limite aussi ce que l'étude établit. Les patients étaient des acteurs entraînés, pas des personnes en soins. Les scénarios se limitaient aux affections que le dispositif pouvait représenter. L'article signale des erreurs occasionnelles de perception, de raisonnement et de technique. Enfin, la recherche est signée par Google et porte sur un système de recherche. Ce n'est pas la preuve d'un remplacement déployé du soin clinique. Pourquoi s'y intéresser alors? Parce que la vidéo change la tâche. Un système médical textuel travaille à partir d'une description écrite. Une consultation en vidéo doit traiter la parole, le rythme, les signaux visibles et le fil de l'échange. tout en choisissant la question suivante. L'étude apporte la preuve qu'un agent multimodal peut coordonner ses canaux dans un cadre contrôlé. La distance jusqu'aux soins réels reste grande. De vrais patients apportent des histoires plus confuses, des environnements variés, des urgences, des différences de langue et des conséquences qu'on ne remet pas à zéro après une simulation ratée. Un déploiement clinique exigerait en outre des responsabilités claires, la protection des données, l'intégration au dossier et une place définie pour le jugement humain. Le résultat se lit donc comme la preuve d'une capacité de recherche plus forte et comme une liste plus précise des questions à trancher avant qu'un tel système ne touche une décision clinique réelle. GLM 5.3 et le dilemme du double usage. Le vendredi 14 août, ZAI a ouvert l'accès hébergé à GLM 5.3 via son offre Coding Plan, sans publier immédiatement les poids du modèle. L'entreprise dit vouloir mener d'abord 2 semaines d'évaluation de sécurité et de renforcement, parce que les capacités du modèle en cybersécurité ont progressé plus vite qu'elle ne l'attendait. ZAI rapporte avoir recensé 2436 vulnérabilités dans 269 projets à code ouvert, dont 1097 que l'entreprise classe comme critiques ou de gravité élevée. La plupart restent sous embargo. C'est au taux, comme les affirmations de performance et la raison invoquée pour le report, viennent de l'entreprise. Tant que les divulgations restent sous embargo, l'essentiel ne peut pas être inspecté de l'extérieur. C'est d'ailleurs la logique de la divulgation responsable, qui garde les détails privés le temps que les mainteneurs corrigent leur logiciel. Et une date de publication promise est une intention, pas une garantie. L'épisode expose un vrai problème de double usage. Un modèle qui découvre une vulnérabilité inconnue peut aider un mainteneur à corriger son logiciel avant qu'il ne soit attaqué. La même capacité peut aider un attaquant à fouiller plus de code, plus vite, à la recherche de systèmes non corrigés. Publier les poids donne du contrôle aux chercheurs et aux défenseurs, mais retire aux développeurs la possibilité de restreindre qui exécute le modèle et à quelle échelle. L'accès hébergé ne supprime pas le risque. Il permet en revanche la surveillance, des limites de débit et des modifications du service pendant qu'un problème est examiné. Les poids ouverts offrent d'autres bénéfices : contrôle local, reproductibilité, confidentialité, expérimentation plus large. Les devoirs répartissent différemment le pouvoir et la responsabilité. Aucune règle simple ne tranche chaque publication. Garder un système capable fermé concentre le contrôle et empêche l'examen indépendant. L'ouvrir peut accélérer la défense comme l'abus. Les éléments pertinents incluent ce que le modèle ajoute réellement à une attaque, l'ampleur du parc vulnérable, les garde-fous qui survivent hors d'un service hébergé et le temps laissé aux défenseurs. Le délai de 2 semaines choisi par ZAI ne clôt pas ce débat. Il rend l'arbitrage concret. L'artefact qui permettrait aux défenseurs d'inspecter et d'adapter le modèle est précisément celui dont le développeur estime qu'il exige encore du renforcement avant une distribution sans restriction. Capacité, accès, incitation et contrôle. Que retenir de cette semaine ? Pas un récit de progrès ininterrompu, mais une carte où la capacité rencontre ses conséquences. Le résultat mathématique offre un travail inhabituellement concret à inspecter, encore en attente d'un jugement plus large. Les 3 lancements de modèles montrent une compétition qui se joue sur la durée, la vitesse et le prix autant que sur la capacité brute. MuseGlimmer déplace une part du contrôle vers celles et ceux qui disposent d'un matériel local suffisant. Le milliard d'utilisateurs revendiqués par Gemini et ses connexions annoncées font entrer l'assistant dans l'activité de masse. Le test publicitaire de ChatGPT introduit une incitation commerciale au cœur de la conversation. AMI porte une interaction plus riche dans un cadre simulé à fort enjeu. Et GLM 5.3 concentre en une seule décision de publication la tension entre poids ouvert et détournement informatique. Le degré de certitude varie d'une histoire à l'autre. Un article mathématique publié peut être vérifié, mais n'a pas encore reçu le jugement ordinaire de la communauté. Les chiffres d'usage et de vulnérabilité viennent des entreprises. Les vitesses maximales sont des annonces de fournisseurs. Les résultats cliniques proviennent d'une simulation menée avec des acteurs, pas avec de vrais patients. À travers les 7 histoires, 4 questions reviennent sans cesse. Que sait réellement faire le système ? Qui peut y accéder et le faire fonctionner ? Quelles incitations façonnent le produit qui l'entoure ? Et qui porte les conséquences quand il se trompe ? Un test de performance aide pour la première question. Il ne répond pas aux 3 autres. À mesure que l'intelligence artificielle devient plus rapide, plus disponible et plus reliée à l'action, ces questions périphériques deviennent une part de la capacité elle-même. C'était The Morning Paper pour la semaine achevée le dimanche 16 août 2026.
C'est tout pour aujourd'hui. Le café est toujours ouvert. À bientôt.